du Finistère plein les oreilles, et de l'évasion aussi, c'est normal, c'est notre nom. On va même s'évader vers l'imaginaire, la SF, science-fiction. Vous savez qu'on a la fierté d'avoir une émission spécialisée dans ce domaine, vous reprendrez bien un peu de SF avec Rémi Toularastel. C'est un mardi sur deux à 13h30 et ça recommence mardi. Vous allez y rencontrer une figure éminente de la science-fiction en Finistère, Guillaume Volant, qui préside l'association La 29e Dimension.
Nous sommes une petite quinzaine d'adhérents. L'asso existe depuis avril 2019, donc elle a eu un an en plein confinement. L'objectif primordial, c'est de promouvoir la science-fiction dans la région, dans le Finistère, dans le département, d'expliquer vraiment aux gens qui connaissent pas très bien ce genre de l'imaginaire, expliquer ce qu'il traduit, ce qu'il raconte et comment retirer des leçons.
Il n'y avait donc pas d'association liée à la science-fiction dans le Finistère avant la vôtre.
En effet, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup interrogé sur cette initiative parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure à ce niveau, ni à Quimper, ni à Brest. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un manque, que c'était dommage en fait, et qu'il fallait vraiment faire ça vraiment dans la région pour amener les gens à s'intéresser à la SF. Un peu comme ce qui se passe à Nantes avec le Festival des Utopiales, qui est juste le plus grand festival de SF d'Europe.
Les Utopiales, c'est pas uniquement de la littérature, c'est toutes sortes de science-fiction ?
Oui, tout support confondu, donc romans, bandes dessinées, séries télé, cinéma, c'est expositions, conférences, c'est la grande messe de la SF en France. Ça dure 3-4 jours, c'est impressionnant le nombre. Je crois que c'est l'an dernier, ils ont battu les records, il y a eu plus de 90 000 visiteurs, enfin, c'était impressionnant. J'y suis allé qu'une fois et j'en garde un souvenir ému, quoi, surtout de cette bibliothèque en fait, qui regroupe 25 000 ouvrages, et c'est du jamais vu, quoi. J'ai adoré ce festival, quoi, découvrir ce festival. On rencontre en fait des auteurs à la fois français et anglo-saxons, comme ça en fait, au détour d'un couloir, et on est bluffé de se dire, tiens, c'est Pierre Bordage, oh là là, c'est Laurent Genefort qui est à côté. C'est vraiment, et les gens sont naturels, quoi, autant les visiteurs que les auteurs, et une bonne ambiance.
Ouais. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il devrait y avoir des associations de science-fiction partout, parce que quand on voit l'ampleur que ce genre a pris dans le cinéma, dans les séries, bon, la littérature, vous en avez parlé, enfin, c'est vrai, c'est énorme, en fait, ces dernières années. Ou alors, je me trompe, mais...
Non, vous ne vous trompez pas du tout, il y a un réel engouement pour le genre actuellement. D'ailleurs, la crise qu'on a passée, le confinement, c'était le huis clos, en fait, en science-fiction, est très fréquent. C'est quelque chose qui a été présenté dans des romans, des films, beaucoup de films, des bandes dessinées, et ça explique comment s'en sortir, enfin, comment meubler le temps dans ce genre de situation. Donc le confinement, c'était concrétisé de la SF, et je trouve qu'il aurait été judicieux de nous préparer un peu mieux en justement lisant certaines œuvres de science-fiction, comme par exemple le successeur de Pierre, de Jean-Michel Truong, qui sorti en 1999 et qui raconte ce qu'on a vécu en fait pendant le confinement. C'est bluffant.
Et ça s'arrête pas là, parce que vous aviez quelque chose à dire sur les masques.
Oui, les masques et la symbolique en fait, le sentiment en fait d'être bâillonné et de ne plus se reconnaître en fait, ne plus se retrouver, c'est totalement déshumanisant, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs œuvres de science-fiction, quoi. Cet aspect en fait qui est devenu notre quotidien et que je trouve assez inquiétant.
On le comprend un peu déjà dans ce que vous nous dites, mais pourquoi est-ce que vous êtes fan de science-fiction ?
Alors, tout a commencé en fait en 1998, quand je suis tombé malade et que je me suis retrouvé en fait bloqué dans une chambre d'hôpital pendant un mois et demi. Et j'ai vu la bande-annonce d'un film qui m'a marqué après, c'était Star Wars épisode 1. Et ça a été en fait le déclic, en fait, la motivation. Bon, à l'époque, les bandes annonces sortaient un an avant les sorties films. Donc bon, ça va, j'avais un an pour me remettre, mais bon, ça m'a quand même motivé pour rester le moins longtemps possible dans cette chambre d'hôpital, me renseigner à fond, mais vraiment à fond, sur Star Wars, sur tout ce qui se faisait en fait depuis les années 80. Et être vraiment, vraiment calé, et ensuite ça a été une déferlance de collections, de bandes dessinées, de romans, de figurines, de tous les produits dérivés, tout ce qu'on pouvait trouver, ça y passait. Et à un moment il y a eu une overdose, et il a fallu que je passe à autre chose, mais toujours dans la science-fiction, et surtout pour comprendre en fait ce que ce genre nous dit en fait, ce qu'il traduit de la société dans laquelle on vit, et les leçons qu'il faut en retenir.
Ouais, parce que la science-fiction, alors peut-être que vous pouvez justement faire de la pédagogie, vous avez un petit livret là très intéressant sur tous les genres de la science-fiction, parce que les gens, c'est vrai qu'ils confondent, ceux qui connaissent pas, ils savent pas, alors combien il y en a à peu près ?
Oh là là, je crois que j'ai dû faire une liste au moins d'une trentaine de différents genres et sous-genres dans la SF. Les classiques, bien sûr, c'est le space opéra avec Star Wars, donc c'est des aventures cosmiques assez impressionnantes, qui se déroulent de planète en planète, et des empires s'affrontent, et il y a des conflits homériques, et c'est très jouissif en fait.
C'est très lié à la mythologie souvent d'ailleurs.
Oui, il y a un rapport, on peut souvent, Ulysse 31 par exemple, le dessin animé complètement basé en fait sur la mythologie grecque et romaine, et c'est plutôt bien fait en fait. Puis c'est un côté aussi pédagogique qui permet de connaître la mythologie, les histoires anciennes en fait, qui racontent les aventures de héros maudits et qui se retrouvent face à des conflits, des écueils, et qui doivent surmonter ces difficultés pour se découvrir en fait, s'accomplir.
Et alors à l'opposé, je pourrais dire, du space opéra, il y a la hard science-fiction, c'est ça ?
Oui, alors la hard SF, c'est plus facile en fait de dire hard SF, c'est un peu l'opposé, c'est un peu du space opéra, c'est plus sérieux. Souvent les auteurs mettent en avant une science qui est plausible en fait, qui correspond à nos connaissances actuelles et qui permet en fait d'extrapoler ce phénomène scientifique dans le futur ou dans d'autres univers, quoi. Et vraiment de deviner quel pourrait être notre avenir à ce moment-là, quoi. Comment cette technologie, cette science pourrait être bénéfique ou maléfique, quoi. Comment elle pourrait être utilisée à bon ou mauvais escient.
Et alors, entre-temps, il y a plein d'autres styles. Alors, par exemple, pour les amateurs d'histoire, il y a ce qu'on appelle l'Uchronie.
Oui, l'Uchronie, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de partir d'une date clé dans le temps et de définir, de se dire, ben, tiens, et si ça s'était pas passé comme ça ? Et si ça s'était passé différemment ? Dans quel monde on vivrait actuellement ? Il y a énormément d'exemples aussi. En France, on aime beaucoup les uchronies parce que ça permet aussi aux auteurs un peu mainstream de ne pas raconter de la science-fiction. Mais ils racontent quand même de la science-fiction.
Oui, ils refont l'histoire. Alors, par exemple, si Hitler n'était pas né ou s'il avait été tué bien avant.
Oui, si le Titanic n'avait pas sombré, n'avait pas rencontré l'iceberg.
Si Castro avait été arrêté dans l'œuf.
Si JFK n'avait pas été assassiné en 1963. Ça laisse aussi rêveur, quoi, sur le monde dans lequel on pourrait vivre si ces événements s'étaient déroulés autrement.
Et alors, par exemple, les films, les séries de zombies, c'est dans la science-fiction ? C'est quelle catégorie ?
Alors, à la base, c'était ce qu'on appelle du post-apocalyptique, mais à force, en fait, d'avoir pléthore de films de zombies, c'est devenu, en fait, un nouveau sous-genre qu'on appelle l'apocalypse zombie, tout simplement. Donc, qui souvent, en fait, peut se passer en fait dans un monde post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, donc avant en fait l'apocalypse, et où en fait les premiers zombies arrivent et les héros doivent se débrouiller, quoi, pour sauver leur vie, tout simplement.
Et j'ai l'impression que d'ailleurs tout ce qui est post-apocalyptique, c'est pareil, c'est assez tendance en ce moment.
Oui, ça fait partie un peu de la nature humaine. On aime bien en fait imaginer le pire, jouer à se faire peur. Et en France aussi, on a ces champions du monde là-dessus, hein. Et c'est vrai que c'est post-apo, c'est intéressant. Je connais pas très bien en fait, hein. Moi, je suis plutôt space opéra ou uchronie. J'avoue, j'ai des lacunes dans ce genre. Mais
vous pouvez pas tout connaître. En même temps, c'est bien normal.
Et après, c'est quand même, il y a beaucoup, il y a pléthore en fait de romans sur ces histoires de post-apocalyptique. Et il faut des fois, il faut faire des sélections, quoi, pour pas se perdre, tout simplement.
Il y a quand même une autre catégorie que vous avez mise à part, parce qu'elle est très populaire, c'est tout ce qui est voyage dans le temps.
Oui, voyage dans le temps. Moi, j'ai beaucoup aimé la trilogie des films Retour vers le futur, parce que ça expliquait vraiment très bien le paradoxe temporel. Et ensuite, il y a eu des séries comme Code Quantum. Alors, c'était encore une autre version du voyage dans le temps. On a aussi, c'est un peu plus différent, c'est Doctor Who, mais c'est pas mal aussi. Le personnage voyage dans le temps à travers une cabine téléphonique bleue. C'est british, c'est chouette, c'est fun, quoi. Le voyage dans le temps, ça permet aussi de se dire comment on vivrait si on avait modifié un événement de notre propre passé, quoi, de notre intime. Et c'est encore une autre réflexion, quoi, savoir... comment serait notre vie si on a eu la possibilité en fait de voyager dans le passé. Parce qu'il est intéressant de se dire que les scientifiques ont tendance à dire que si on pouvait voyager dans le temps, ça serait vers le passé, puisque par définition on l'a déjà vécu. Et que voyager dans le futur, ça serait assez compliqué, parce qu'il y a tellement de pléthores en fait, de futurs différents, que dans quel futur on atterrirait. Et la science-fiction propose bien sûr des solutions, quoi, des propositions.
Y compris d'autres sous-genres comme les utopies, donc là c'est plutôt positif, ou les dystopies, ou c'est malheureux.
Alors les utopies, c'est vrai que c'est la science-fiction qui se passe bien, c'est sympa aussi, il y a une vraie tendance actuellement pour contrebalancer un peu ces histoires de ces dystopies, donc dystopie, l'opposé d'une utopie, et les dystopies sont très, très prégnantes, hein, que ce soit en littérature ou en série télé, et à l'opposé, les utopies sont un peu plus restreinte. La raison en fait à cela, c'est que on écrit une histoire sur des écueils, sur des conflits.
On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure.
Exactement, on ne parle jamais.
Ou on avance.
Oui, là, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, donc on part du principe que ça n'intéressera pas le lectorat, donc. Mais oui, il y a des recherches, il y a du travail sur l'utopie, quoi. On dit aussi que l'utopie en fait c'est une fin. C'est la fin d'une histoire. Le héros, en fait, a résolu le problème auquel il était face et il se retrouve dans une société utopique.
Il ne se passe plus rien.
Voilà, happy end.
Alors, votre association, la 29e Dimension, qui est donc basée à Quimper, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Mais qui intervient partout ?
Oui, surtout, ouais, surtout dans le Finistère, hein, vraiment. Je trouve que c'est important, en fait, de promouvoir la SF dans la région, d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas que c'est pas un truc pour les garçons adolescents. Il y a beaucoup de filles qui écrivent de la SF et qui même écrivent de la bonne science-fiction. Et il faut l'expliquer, quoi. Il faut le mettre en avant, quoi, le mettre en œuvre et avoir une pédagogie, quoi, dessus.
Comment alors vous mettez en œuvre tout ça ? Comment est-ce que vous présentez la SF ?
Pour l'instant, je le fais donc en exposition. J'expose une partie de ma collection d'objets, donc Star Trek, Star Wars et Doctor Who. Je mets en avant des objets issus de ces univers avec des petites pancartes pour que les gens en fait comprennent ce qu'ils regardent, hein, qu'ils sont pas juste en fait devant un objet à se demander mais qu'est-ce que c'est, enfin à quoi ça sert. Ça paraît toujours un peu surprenant. Et d'autres initiatives donc sont en préparation, comme un café science-fiction au Centre des Abeilles à Quimper pour lancer la tendance dans la région. J'ai aussi donc avec la médiathèque Alain Gérard un projet donc de club de SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, qui là sera plus axé club de lecture, donc chacun vient avec un livre qu'il a lu, qu'il a plu et qu'il a envie de présenter, avec bien sûr une thématique en amont sur un genre ou un sous-genre de la SF, avec explication et présentation des œuvres en lien en fait avec cette thématique. Toujours au Centre des Abeilles, mais là donc en début d'année, le 6 février 2021, soirée ciné-débat sur le film L'homme bicentenaire. Donc, c'est une des rares adaptations du travail d'Asimov, des romans d'Asimov, donc en film, L'homme bicentenaire, qui raconte en fait le périple d'un robot qui veut devenir humain. Et à côté donc, de cette projection, il y aura une exposition sur l'évolution du robot dans le cinéma et présentation de différentes œuvres sur la robotique et tout ça en une soirée, donc c'est dense, ça bouge, c'est chouette. Mais il faut c'est des petits rendez-vous comme ça, des petites dates clés, Covid oblige, on ne peut pas faire autrement.
Et vous interviendrez de temps en temps ou tout le temps, je ne sais pas, dans l'émission de Radio Évasion de Rémi, vous reprendrez bien un peu de SF.
Exactement, on a commencé, on a fait un premier enregistrement en juillet chez Rémi, où je présentais plusieurs œuvres de plusieurs romans qui m'avaient plu et je faisais une petite chronique de chacun. Et on a prévu de continuer comme ça dans cette dynamique et de proposer ponctuellement plusieurs chroniques littéraires sur des romans de SF qui m'ont vraiment plu et que je conseille en fait de lire, qui sont de manière générale abordables en fait à des gens qui connaissent pas très bien là. C'est toujours dans cet esprit d'orienter la personne vers le plus simple, le plus facile, quoi, qu'elle soit pas par des textes vraiment humains où elle peut s'identifier au héros et se retrouver en fait dedans.
Donc plutôt pas forcément des romans récents, ça pourrait être des romans, des classiques de la science-fiction.
Oui, des classiques et puis d'autres romans écrits par des auteurs entre guillemets mainstream, c'est-à-dire qui pensent qu'ils n'écrivent pas de l'ASF mais qu'ils en écrivent quand même et qui sont plutôt bien écrits, quoi, et puis vraiment sympathiques, quoi, vraiment. Je pense à le livre de Dev là qui raconte les déboires d'un chauffeur de taxi qui se retrouve, enfin qui a plein de problèmes et qui les écrit dans un livre qui ensuite il va les imprimer en fait sur un livre en acier avec des pages d'acier qu'il va enterrer dans le jardin de son ex-femme. Et 5 siècles plus tard, plusieurs cataclysmes ont eu lieu. Parce que ça se passe au Royaume-Uni, donc Londres est à moitié engloutie sous les eaux. Les survivants retrouvent ce livre et prennent pour argent comptant toute sa misogynie, toute son homophobie, tout son racisme, tout ça, et ils en font une religion.
C'est une bonne dystopie là.
Complètement, ouais, complètement, et puis vraiment un brûlot anti-religieux. Enfin, c'est ce livre, le livre de Dave, il est vraiment remarquable, quoi.
L'émission Vous reprendrez bien un peu de science-fiction, c'est ce mardi à 13h30 sur Radio Évasion.